Chut, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Gironde sur l'angélis.com.
Chut, on écoute la télé avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord sur diffusionsolmur.fr. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Dune, la radio du bassin d'Arcachon avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 16h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Radio Dune.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au programme de cette nouvelle édition de Chut, on écoute la télé, eh bien nous allons avoir le plaisir de vous proposer deux coups de cœur ciné cette semaine, puisque dans un instant, le premier avec Éric Lavenne et Anne-Marie Vin qui seront avec nous pour nous parler du film Chamboultou qui sort mercredi dans les salles. Ils seront nos invités pour tout nous dire évidemment sur les coulisses du tournage. Rendez-vous à ne pas rater donc d'ici 3-4 minutes maximum. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine, nous recevons celui qui incarne Gary dans la série Un si grand soleil, c'est Alban Omar qui sera notre invité. Elle incarne Gwen dans Demain nous appartient. C'est Sandrine Salière également qui viendra nous parler de la série, du rôle de Gwen et de ses projets, bien évidemment. Et puis nous aurons le plaisir de recevoir aussi Elise Tilroy. Elle est à l'affiche de Section de Recherche. Et bien on en parlera évidemment avec elle tout à l'heure de son arrivée la saison dernière dans la série. Et deuxième coup de cœur ciné, et bien cette semaine on vous le disait, puisqu'en fin d'émission, nous consacrerons un deuxième coup de cœur au film Mon Inconnu. Nous recevrons à cette occasion le réalisateur Hugo Gélin, mais qui sera accompagné de Benjamin Laverne et Joséphine Japy, deux des rôles principaux donc de ce très beau film qui sort également mercredi dans les salles. Donc vous l'avez compris, le programme est chargé. Sans plus tarder, on démarre tout de suite avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on va démarrer avec les audiences de lundi dernier, comme d'habitude, et c'est du foot hein, sur M6 qui remporte la première manche de la semaine avec le match France-Islande et 6 100 000 téléspectateurs, 24,9% de part de marché. Les Bracelets Rouges s'en sortent très bien sur TF1 avec 4 810 000 téléspectateurs, 22,2% de part de marché. Du coup, les autres chaînes souffrent. Hein, Trapped sur France 2 fait seulement 1 960 000 et 8,2% de part de marché, et Thalassa s'effondre sur France 3 à 1 439 000 téléspectateurs. Mardi, il y avait L'Arme Fatale sur TF1. Petit leader, hein, 3 724 000 téléspectateurs seulement et 17,7% de part de marché. Très beau démarrage pour la nouvelle fiction d'M6. Un avion sans aile dont vous découvrirez le final justement demain. Et bien là, c'est 2 943 000 téléspectateurs et 14,5% de part de marché. Le Grand Échiquier sur France 2 déçoit, seulement 1 640 000 téléspectateurs et 9,9% de part de marché. Un petit mot sur mercredi, une mort sans importance sur France 2 qui arrive en tête avec 4 070 000 téléspectateurs, 18,7% de part de marché. Grey's Anatomy arrive deuxième avec 3 339 000 et 16% du public. Top Chef est troisième avec 2 299 000 et Déraciné des ailes s'en sort pas mal avec 2 110 000 téléspectateurs seulement et 10,2% de part de marché. Et puis les fans de Section de Recherche se sont retrouvés hein, jeudi, puisque vous étiez 4 324 000 téléspectateurs et 22% du public. Très bon démarrage pour la nouvelle série 9-1-1 sur M6 avec 12,7% du public et 2 634 000 téléspectateurs. Et Envoyé spécial sur France 2 avec 2 115 000 téléspectateurs s'en sort plutôt pas mal. Et puis vendredi, c'est Koh-Lanta qui arrive sans surprise évidemment en tête des audiences, et The Voice samedi sur TF1. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences. On débarque tout de suite. Maintenant, donc, avec notre premier coup de cœur ciné de la semaine, c'est Éric Lavenne et Anne-Marie Vin qui débarquent.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler de Chamboultou. C'est le film qui sort mercredi au cinéma et qu'il ne vous faut pas rater, évidemment, puisque c'est le nouveau film d'Éric Lavenne qui nous fait le plaisir d'être de nouveau avec nous dans Chut, on écoute la télé. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Il n'est pas venu tout seul. Il est venu de mon amie Anne-Marie Vin. Et qu'est-ce que je suis heureux de t'accueillir à nouveau, Anne. Bonjour.
Merci, bonjour. C'est gentil de m'accueillir.
Merci d'être là. J'ai eu la chance de voir le film à l'Alpe d'Huez en avant-première, Eric. C'est un film bouleversant que tu nous sers ici. Je pense que le public va être bouleversé avec la participation, évidemment, d'Alexandra Lamy, de José Garcia, de Anne-Marie Vin et toute cette pléiade d'acteurs qui sont autour d'eux, qui sont absolument incroyables.
Voilà. Alors bouleversant, c'est d'abord, c'est une comédie, hein. Il y a des choses très très drôles, mais c'est vrai que c'est un peu dans la veine, si j'ose dire, de Retour chez ma mère ou de Barbecue, en mieux.
et ça s'améliore voilà. Avec le montant.
Exactement, exactement. Et il y a à la fois, comme dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses qui nous font rire, et puis il y a des moments un peu plus graves.
Alors, on va raconter l'histoire en quelques mots du début du film avec toi, Eric.
Voilà. Alors, c'est l'histoire en fait d'une fille jouée par Alexandra Lamy qui publie un livre. Et dans ce livre, elle raconte sa vie, notamment l'accident qu'a eu son mari. Il a eu un accident de scooter et il s'est réveillé aveugle avec un gros déficit cognitif. Barbara, donc, sort ce livre. Elle parle de sa vie et elle a le malheur de parler un peu de ses amis, de ses proches, de sa famille, même de manière gentille. Et en fait, tout son groupe d'amis va pas très bien le prendre, ce bouquin. Au lieu d'être en compassion avec elle en disant « elle a un destin incroyable, son mari est handicapé, elle lutte », non, tout ce qu'ils vont retenir, c'est ils pensent être un peu égratignés dans le livre. Et notamment le rôle d'Anne-Marie Vin qui joue la, j'ai envie de dire, la chef des méchantes.
La chef des méchantes, alors je dirais pas forcément ça, Anne, mais tu joues le rôle de la meilleure amie d'Alexandra qui essaye toujours de tirer la couverture à elle, mais qui en même temps j'ai l'impression qu'elle n'en a pas conscience.
Ah mais elle en a absolument pas conscience. C'est ça qui est génial dans ce personnage. C'est-à-dire qu'effectivement elle fait partie du groupe d'amis du personnage d'Alexandra. Elle va lire ce livre. Évidemment elle va se chercher immédiatement comme on fait tous sur une photo de groupe par exemple. On se trouve tout de suite et elle ne va pas du tout se reconnaître. Et elle va être extrêmement blessée de ça et du coup devenir un peu méchante. Elle va s'auto-centrer sur elle et elle va trouver des détails parce qu'il n'y a rien de méchant en plus dans le bouquin sur elle, mais en tous les cas elle n'est pas suffisamment mise en valeur à son goût par sa meilleure pote, donc elle va réagir, elle va sortir les griffes.
Eric, c'est le quatrième film avec Alexandra et c'est le quatrième film avec Anne, si je me trompe pas.
Nous, on a fait trois films et on a fait une série, Les Beaux Malaises avec Franck Dubos.
Les Beaux Malaises avec Franck Dubos pour M6, effectivement. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce duo d'actrices pour interpréter la meilleure amie et Béatrice?
En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'à talent égal, je prends les gens que j'aime et les gens qui vont bien matcher. Parce que comme je fais des films, comme on dit, des films chorales où il y a beaucoup de personnages, s'il y a une tête de con ou une tête de conne, on peut le dire aussi, ça va pas aller. Donc je veux des gens qui s'entendent bien dans la vie, parce que sur un tournage, quand vous tournez avec 12 personnes, on a souvent des séquences de déjeuner, dîner où il y a beaucoup de monde, il faut chacun se dise, même si c'est pas moi l'élément central de la séquence, j'aime mon partenaire et donc je vais jouer quelque chose, même si c'est au second plan, mais je resterai active ou actif. C'est comme ça que je réunis les gens, le critère numéro un étant bien évidemment le talent. Mais quand on voit des gens comme dans le film, on a Mehdi Sadoun, Michel Villermoz, Michael Youn, Ludivine Chastenay, enfin on a plein de comédiens qui sont différents mais qui aiment s'amuser et qui sont en bienveillance parce qu'ils comprennent quelque chose, c'est que en étant bon copain dans un film, le film va être meilleur et ils sont tous gagnants.
Alors de belles scènes avec Michael, évidemment, qui joue un peu le mari qui trompe, hein, évidemment, de ce personnage, et qui s'aperçoit à un moment donné, et qui s'aperçoit enfin qu'il a une femme, hein, à un moment donné.
Oui, c'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire que lui, il est terrifié à l'idée que dans le livre soit dévoilée son infidélité, donc il ne pense qu'à ça, il est totalement stressé à l'idée et aussi à l'idée de se retrouver avec son meilleur ami qui est joué par José Garcia, et que José Garcia, vu qu'il a plus de filtre du tout et qu'il dit tout ce qu'il pense, et donc il a peur que tout d'un coup José Garcia dévoile devant tout le monde qu'en fait il a servi d'alibi pendant 20 ans à toutes les infidélités.
Donc, t'as joué au foot, t'as baisé, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. T'as joué, et du coup le personnage de Michael est tellement drôle parce qu'il va se planquer tout le temps et il va parler. Ah non, mais il est génial. Pour lui, c'est un cauchemar. Et du coup, effectivement, à un moment donné, il va se rendre compte qu'effectivement, il a une femme qui est plutôt pas mal et que pourquoi se taper la terre alors que juste il a quelque chose de pas si mal à la maison, quoi.
Quelle était la scène la plus drôle ou la plus compliquée à mettre en boîte pour toi, Eric, justement, avec ces scènes avec 12 comédiens, par exemple, sur le devant?
Oui, alors parce qu'il y a drôle et compliqué. Dans les scènes les plus compliquées, c'est ces scènes de règlement de compte, les scènes de dîner où il y a 10-12 personnes, comédiens qu'il va falloir filmer, que ça existe, que ça fasse pas plan sur plan. Ce qui est compliqué, par exemple, il y a un dîner à la fin, il faut qu'il y ait une vraie progression et dans le jeu des personnages, également dans la façon de filmer où on va peut-être être de plus en plus focus, de plus en plus gros plan. Voilà. Sinon, les scènes drôles, Anella, il y a une scène qui m'amuse beaucoup, c'est qu'une fois que, comme José Garcia n'a plus de filtre et dit les choses, il explique à Michael Youn qu'il peut très bien, s'il a besoin de baiser, il a qu'à baiser avec Nadia. Lui, il dit Nadia, il sait pas de qui il peut, il fait, mais ta femme. Ah oui, d'accord. Et du coup, il se comporte avec sa femme comme il se comporte avec ses maîtresses, c'est-à-dire de manière un peu plus, on va dire, plus physique et moins dans la retenue. Et en fait, c'est peut-être aussi ce que sa femme attendait. Et ce que j'adore, c'est qu'ils sont en train de faire l'amour. Voilà, appelons ça faire l'amour bruyamment. Et de l'autre côté du mur, il y a Jean-François Carré et sa femme. Et Jean-François dit, entendant les autres en train de faire l'amour...
Et la velléitaire.
Oui, il dit surtout, ouais, la velléitaire, il lui dit, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ça veut rien dire. Et ça, c'est, voilà, c'est ce genre de choses qui m'amusent beaucoup.
C'est très, très drôle, il dit n'importe quoi, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ils ne peuvent pas du tout faire l'amour comme ça, c'est, ça n'existe pas.
Et pour toi, pour terminer, ta scène la plus drôle?
Moi, ce rôle, je l'aime énormément. J'ai aimé toutes les séquences. J'ai vraiment, c'était une délectation. Je te remercie, hein, d'ailleurs Eric, il le sait. Hein. J'ai adoré incarner Nadia. C'est tous les dialogues sont tellement jubilatoires et tout. Cette méchanceté, cette petite boule de pu là, qui est là, c'est génial à jouer. C'est génial. J'ai adoré.
Écoute, nous en tout cas, on a aimé toutes les scènes, on a aimé tout le film. Et c'est le film qu'il ne faut pas rater. Et ça sort mercredi au cinéma. Je vous remercie infiniment d'être venus tous les deux nous en parler. Merci Eric, merci Anne. Et à très bientôt, on termine avec la bande-annonce.
Bien sûr.
Alors, ça raconte quoi?
Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans.
Votre mari, il a eu quoi comme problème?
Un accident. Frédéric s'est réveillé aveugle. Je cherche un papier vert. C'est une feuille verte. Voilà.
Ça sent le Beaufort. Non, c'est la dame qui sent la bouche.
Non, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Ah bah si, ça sent pas la poire, ça sent le fromage.
En tout cas, il a pas perdu l'appétit.
Il est devenu obsédé par la bouche.
C'est quoi? C'est quoi, j'en veux? C'est quoi, c'est quoi?
C'est des Maltesers.
À vous, les Maltesers. C'est quoi, j'en veux? C'est quoi, c'est quoi?
C'est mon Grazia, papa. Ça se mange pas.
Ah, c'est nul.
Vous parlez de vos amis dans l'île. Vous leur avez fini, avant?
Pas encore, mais ça va leur plaire. Enfin, s'ils se reconnaissent.
Oh, je me souvenais pas de ça.
Mais c'est vrai, quoi, on y est. On est avec elle.
C'est un livre, oui.
Je rêve. Mais ça, vas-y, tu vas voir. Je vais tout fondre.
J'en sais rien.
T'en sais rien? Fabrice, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. T'as bien une petite idée, non? Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous,
je t'adore.
Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas manchot, il est aveugle.
Hey, c'est moi qui le fais, hein. C'est moi qui le fais. Hein.
Oui, oui, je te dirai, je te dirai.
Maintenant?
Non, je te dirai, je te dis.
Ok, Jean-Luc, quand tu le sens.
Maintenant!
Non, non! Attends, attends, attends! Mais pourquoi on fait ça, bande de cons?
Qu'on est cons!
Allez, on va se retrouver dans 3 minutes, hein, juste le temps de laisser passer une petite pause et on revient avec nos coups de cœur télé. Je vous l'ai dit, Elise Tilroy, Alban Omar et Sandrine Salière seront avec nous. Deuxième coup de cœur ciné en fin d'émission avec Joséphine Japy, Benjamin Laverne et Hugo Gélin pour Mon Inconnu. Alors surtout, ne bougez pas, on revient tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on démarre tout de suite nos coups de cœur télé de cette semaine, évidemment. Et ce soir, et bien sur TF1, c'est le grand final de la série Les Bracelets Rouges. Alors sortez vos mouchoirs. Il va y en avoir besoin, je pense. Tout de suite, la bande-annonce. Avant d'accueillir eh bien, notre premier invité de ces coups de cœur télé, c'est Alban Omar qui nous rejoint pour Un Si Grand Soleil.
Lundi prochain, la suite des Bracelets Rouges.
Pourquoi vous voulez qu'ils partent comme?
Non, on n'est pas d'accord, hein. Ça va pas se passer comme ça.
Je t'aime, papa.
Bah, moi aussi, je t'aime.
Vous décidez plus pour moi, enfin.
J'ai cherché partout, je la trouve pas.
Faut qu'on se tire d'ici.
Mais tu veux qu'on sorte comment?
Ah bah, j'ai une idée.
Bon, Clément, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Pourquoi tu peux me dire où on va, là?
Allez, quoi, faites vite, vous voulez qu'on se fasse griller ou quoi, là?
Allez, ainsi Grand Soleil, c'est notre coup de cœur télé de la semaine, vous savez, hein, c'est tous les soirs à 20h45 sur France 2, avec Alban Omar qui nous a rejoint. Bonjour Alban.
Bonsoir tout le monde.
Alors, je suis totalement fan du personnage de Gary, je dois te le dire Alban, parce qu'il nous fait mourir de rire. Je pense que tous nos auditeurs sont dans le même cas.
Eh ben écoute, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup, j'y mets beaucoup de cœur, tu vois, à travailler ce personnage, parce que il y a tellement de facettes. Il faut que je m'imprègne de plein de choses, je travaille beaucoup pour les dialogues, tu vois, les avoir bien, vraiment m'imprégner de tout ça, et bah ça me touche.
Gary, c'était un petit peu le loser de base. C'est en train de se basculer et la situation est en train de se renverser. Ça va devenir peut-être le héros de Elle Cosmétique.
Eh ben écoute, ça, je ne sais pas encore. Ça fait, en fait, je suis un peu comme dans la vie, moi, tu vois, les personnages, enfin les textes, je veux dire, je les lis pas un mois ou deux mois avant. Je les lis 15 jours avant, je les apprends et je vis le présent, quoi. Donc j'ai jamais de vision à long terme. Je suis un petit peu comme dans la vie, quoi. Il m'arrive le truc et puis qu'est-ce qui se passe et comment je réagis, comment, et puis avec des choses marrantes, moins marrantes, et voilà.
Ton premier jour de tournage, tu t'en souviens?
Ah ouais, je me souviens très très bien. C'était à la Paillotte. Et alors ça m'a fait tout bizarre, ouais, parce que ça allait très très vite. J'avais une scène et ça a été assez marrant. j'ai eu très peur, mais tout de suite dans le main, il y a une équipe qui est formidable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'équipe technique est géniale. On est vraiment hyper bien entouré, quoi. Et c'est vraiment, c'est un confort. C'est un vrai confort parce que du coup, même si ça va vite, même s'il faut, si c'est dense, et ben, il faut quand même. Les gens sont là, quoi. Les gens, tout le monde est là pour vous aider. C'est vraiment formidable, quoi.
Ton plus beau souvenir de tournage?
Alors, il y en a eu pas mal, hein. Pas mal.
J'imagine, il y a dû y avoir quelques fous rires avec.
Alors, il y a eu le truc le plus drôle que j'ai, qui m'a fait peur au début et j'étais très content. C'est une scène, il y a eu toute une intrigue autour de la crème d'une américaine qui venait, on m'a dit, bon, il va falloir que tu ailles danser dans la rue. La petite pastille, ça sera Gary qui est content, qui a réussi son coup, quoi. Et j'ai dû danser dans, pas place de la comédie, mais la rue qui remonte. Devant tout le monde, ils ont mis une grosse enceinte avec de la musique à fond et tout le monde me regardait et je dansais sur de la soul music. Sur ce coup, ça m'a fait peur, mais après, j'étais vraiment grisant, quoi.
C'était la danse de la satisfaction.
Ah, c'était la danse, c'était l'extase. Et une scène émouvante, c'était avec ma fille. En fait, je crois que c'est la première scène où on a vu un peu une couleur un peu émouvante de Gary. Où je dis à ma fille, je suis vraiment un loser, c'est nul, je suis nul, machin, blablabla. Et elle me dit qu'elle m'aime comme ça, quoi, parce que je suis un père pas conventionnel, mais elle m'aime comme ça. Et puis je lui dis à la fin, ma plus belle étoile, enfin ma bonne étoile, c'est toi. Fin. Et ça, je crois que c'est une scène qui a basculé, qui a fait basculer un peu dans la tête des scénaristes, je pense.
Quand t'es arrivé dans la série, t'étais conscient de tout ce que ça allait changer peut-être dans ta vie, dans la vision des gens, parce que je suis sûr que dès le lendemain, t'as dû voir le changement. Hein.
Ça, j'avais jamais fait du coup. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, ouais, parce que tous les gens vous reconnaissent beaucoup. J'avais pas mal tourné avant, mais pas dans des choses forcément quotidiennes. Mais en même temps, je suis très relax avec ça.
Et alors, la dame qui joue ta maman, qu'est-ce qu'on l'aime aussi?
Elisabeth Margoni. Ah, c'est ma petite chouchou, hein. On s'est un peu retrouvés tous les deux, et puis on a dit, bah voilà, et on commence à avoir des scènes ensemble, et puis elle est un peu italienne. Enfin, c'était son père qui était italien. Et on a commencé à se marrer sur les comédies italiennes des années 60. Et du coup, on a commencé à jouer des scènes un petit peu comme ça. Et ça parlait fort, et on s'est vraiment entendu tout de suite. On s'amuse beaucoup avec elle. Bon,
les prochaines facéties de Gary, allez.
Il est toujours sur sa collègue de bureau là.
Sur Prune.
Toujours, voilà, sur Prune. Au moins 4 ou 5 fois, il va essayer. Vous allez voir. Je sais plus à quel
c'est
moment.
C'est pas gagné. Hein.
C'est pas gagné. Mais bon, je désespère.
Il lâche rien.
Non, jamais. Et puis s'il lâche, ben, il reprend le lendemain.
C'est ce genre de mec qu'on fout à la porte et qui rentre par la fenêtre.
Voilà. Voilà, ça rentre dehors et coucou, c'est moi.
Tes projets, Alban, en dehors d'un si grand soleil, est-ce que ça laisse un peu de temps pour faire autre chose?
Bah pour l'instant, pas vraiment, mais bon, j'espère que je peux pas faire tout le temps. Il faut que je me trouve des rôles quand même pour aérer, pour trouver des. Pour nourrir ce personnage de Gary, parce que si à un moment ça va se mordre la queue, donc il faut que je trouve des petites choses à côté pour aérer, pour me régénérer.
J'ai un peu.
Ouais, régénérer, voilà.
Bon, en tout cas, on te suit, évidemment, dans un si grand soleil. C'est tous les soirs à 20h45 sur France 2. Et puis, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Tu es le bienvenu quand tu veux.
Eh bien, c'est très gentil. Et continuez à écouter. Chut, on écoute la télé.
Monsieur Laurent ? Brigadier Godard, PJ de Montpellier.
Je sais que j'ai merdé, mais enfin, tu peux pas oublier ce qu'on a vécu tous les deux.
Mais dis-moi, pourquoi tu fais tout ça pour moi ?
Dans ce genre d'affaires, il arrive que les agresseurs craquent et demandent même pardon à leurs victimes.
Police nationale ? Est-ce qu'un certain monsieur Guilhem Cabestan, ça vous dit quelque chose?
Et ce mercredi, eh bien, nous vous invitons dans Des Racines et des Ailes sur France 3, un voyage dans notre région Nouvelle-Aquitaine du Poitou, aux Charentes, jusqu'aux îles. Ce sera l'occasion, eh bien, de faire un peu plus connaissance avec l'île d'Aix, l'île d'Oléron, ou encore, eh bien, évidemment, toute la région du Poitou. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voici la bande-annonce juste avant d'accueillir Élise Tilroy pour Section de Recherche.
Bonsoir à tous. Pour ce numéro inédit, je vous emmène du Poitou jusqu'aux îles des Charentes. Nous arrêterons à Poitiers, la capitale. L'historique de la région abrite un patrimoine exceptionnel à l'image du palais des comtes de Poitou et duc d'Aquitaine. On doit cet édifice à Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus influentes d'Europe au Moyen-Âge. Elle en fit sa résidence principale. Nous survolerons ensuite le Marais Poitevin, deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. Direction l'île d'Oléron, au village de Fort-Royer. Tout près d'Oléron, l'île d'Aix, un bout de terre sans voiture. Enfin, nous suivrons le formidable travail des biologistes sauveurs de tortues marines. Certaines d'entre elles sont blessées par l'ingestion de déchets plastiques. Leur retour à la vie sauvage est toujours un moment d'émotion.
Allez, coup de cœur télé cette semaine, on va continuer à parler de section de recherche avec Élise Tilroy qui nous a rejoint. Bonjour Élise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On avait eu l'occasion de se rencontrer pour Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes ensemble.
Mais oui, 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 j'étais venue pour Mes Amis, Mes Amours, oui.
Et là, c'est section de recherche. Alors là, c'est une autre aventure. Ça a démarré déjà jeudi dernier sur TF1. Xavier Deluc était avec nous lundi dernier. Et là, on va faire un peu plus connaissance avec le personnage d'Ariel qui a fait son arrivée dans la saison dernière.
Absolument. C'est ma deuxième saison. Bah, je suis arrivée l'année dernière, je cherchais un petit peu mes marques, je rencontrais les nouveaux copains et là ça se passe très très bien, on est ravis. Voilà, c'est l'aventure, elle avait bien commencé, elle continue, c'est formidable.
Alors là, les deux premiers épisodes étaient en Nouvelle-Calédonie, donc là c'est retour à Cannes pour tout le monde. Comment on pourrait définir Ariel ?
Ariel, donc c'est la chef du service scientifique. Elle regroupe un peu toutes les informations qu'elle reçoit qui sont d'ordre scientifique, que ce soit légiste, balistique, toutes ces choses-là. Elle regarde son petit monde avec bienveillance. Et puis de temps en temps, elle aime bien
des petites taquiner.
Des petits coups de patte, oui, un petit peu, oui.
On la sent taquine, oui.
Un peu.
un petit peu rentre dedans aussi, elle ne cesse pas faire quand même.
Ah bah non, non. On n'arrive pas à ce poste et à cet âge-là pour se laisser faire. Non, ce serait dommage.
Christelle Labaud qui a incarné le personnage jusque-là. C'est difficile d'arriver dans une équipe déjà constituée. Comment ça s'est passé ? L'intégration au niveau de la section.
Ben, ça a été compliqué parce que Christelle avait laissé une trace très prégnante puisqu'elle avait fait depuis le début.
Elle avait plus de 10 saisons.
Plus de 10 saisons. Elle avait un personnage qui existait, qui était super, qu'elle avait bien installé, qui était original et tout. Donc, fallait pas faire pareil. Il fallait faire différent. Bon, je pense qu'on est deux femmes différentes aussi, donc quelque part, ça se tient.
Alors, des enquêtes, des guests, c'est ce qui nous attend. Évidemment, c'est parti pour 14 épisodes inédits. Section de recherche, c'est un succès incroyable. C'est la plus longue série encore qui existe quasiment sur TF1. C'est chouette d'arriver sur un paquebot comme ça.
C'est génial et à la fois, oui, bah, il faut se dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus à ce paquebot qui navigue déjà depuis si longtemps. Alors bon, bah il faut y aller quoi. Faut se jeter à l'eau, faut tenter des trucs. Bon, c'est pas un personnage facile à développer non plus, puisque déjà je suis pas dans le même espace physique que le reste de l'équipe. Moi, je suis dans un labo. À part quand on est sur des scènes de crime, et donc voilà, faut développer des rapports avec le reste de l'équipe d'une autre façon quoi. Alors c'est chouette, c'est super intéressant et ça m'amuse énormément.
Alors sur cette saison, je sais que c'est un peu difficile de dire ça, mais sur 14 épisodes, quelle a été la scène la plus marquante peut-être pour vous sur cette saison-là ? Ou est-ce qu'il y a une scène que vous vous souvenez qui a été drôle parce qu'elle a dû être faite je ne sais combien de fois ou qui est partie en fou rire ?
Oui, il y en a une, ouais. Ah,
je savais bien qu'en grattant un peu.
Si, il y en avait une. Bon, il y en a toujours où tout à coup, tout le monde a un fou rire. Bon, mais ça c'est. Mais il y en avait une particulière où je devais faire tellement de choses en même temps. Et tellement de textes et des déplacements et être dans les marques et faire des trucs hyper scientifiques, donc vachement sérieux et, et très concentré en ayant l'air de savoir exactement ce que je faisais, ce qui n'était pas le cas, et tout en disant mon texte. Et celle-là, c'était très rigolo à faire au final, mais ça m'a demandé beaucoup de concentration au début, de recherche, et on a bien rigolé parce qu'on se disait non, là tu peux pas être là, non ça sert pas à ça. Bref, on a cherché tous ensemble, c'était très sympa. Autrement, les scènes où je découvre les corps en général,
c'est on parce est dans des plus marrant, mais après
non,
bon,
mais on est dans des lieux sublimes surtout. Ouais. C'est sublime.
Bah, mine de rien, c'est quand même près de 8 mois sur 12 sur la Côte d'Azur.
Oui. Alors avec des allers-retours, mais c'est dense. C'est, je crois, la seule série qui est presque produite de façon industrielle comme ça.
C'est vrai, en prime time, effectivement. Il y a des projets autres ? Est-ce que ça a laissé du temps un petit peu pour que vous puissiez faire d'autres choses ?
Ça a laissé du temps, oui, bien sûr, ça a laissé du temps. J'espère sortir un roman bientôt encore, un troisième roman. J'ai fait des petites participations avec des copains. J'ai tourné avec Zabou il n'y a pas longtemps dans un téléfilm de Christian Faure. J'avais participé à un autre téléfilm de Christian Faure d'ailleurs aussi, tiens c'est marrant. Voilà, de temps en temps je fais des petites incartades, mais j'aime bien écrire.
pour 2019, le roman? A priori, le troisième, alors, fin 2019.
Alors, le temps littéraire.
Ça se maîtrise pas.
Ah non, c'est pas ça, c'est qu'il a rien à voir avec le temps, le temps de la télé. Le temps de la télé est super rapide, le temps littéraire, c'est très lent.
L'année prochaine, quoi.
Oui, là, j'espère l'année prochaine. Oui, oui, là, il est quasi prêt, le roman. Donc, j'espère l'année prochaine. Nous verrons. Peut-être qu'on se reverra et qu'on en parlera.
Exactement. Élise, merci d'avoir été avec nous. Section de recherche, c'est jeudi. Hein, c'est la suite, évidemment, de cette nouvelle saison inédite sur TF1. Et je vous dis à très bientôt.
Merci, à bientôt aussi.
C'est un type de la capitainerie qui a donné l'alerte. Pas de papier, pas de téléphone. Aucun moyen de l'identifier.
Bonjour, Ariel.
Bonjour, mon capitaine.
Une idée des causes de la mort?
Arme blanche. Une entaille assez profonde au niveau du foie. Hémorragie consécutive au cou. Décès.
Et puis bien sûr, pas de témoin. Il n'y a jamais personne ici la nuit.
Oui, bien sûr.
On n'a pas de caméra ici. Hein. En revanche, on a une là-bas, juste au coin, au carrefour. Je vais demander les images.
Bon. C'était dans sa poche. Des clés et un ticket. 3 pizzas 4 fromages commandées chez Pizza Home le 17 novembre. Il y a 3 jours.
Allez, on va parler de Demain nous appartient aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. On est très heureux de se voir un des personnages qui est là depuis le début. C'est Sandrine Salière qui joue le rôle de Gwen. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans Chute, on écoute la télé. Je suis très heureux de te recevoir. Demain nous appartient, c'est une formidable aventure. C'est aujourd'hui près de 400 épisodes. C'est un truc de dingue. Est-ce que tu imaginais ça quand vous avez commencé?
Pas du tout. Au début, on nous a dit que c'était une saga de l'été. Et moi, j'étais très excitée parce que c'était une magnifique opportunité de me développer en tant que comédienne. Et puis, c'était sur TF1. Et du coup, la grande surprise, grâce au public qui nous a suivis tout l'été, mais également à la rentrée, grâce aux rediffusions, aux replays, l'aventure a continué, en fait. Et non, on ne serait jamais dit que 400 épisodes...
Ça ne s'arrête plus.
Non, ça ne s'arrête plus, ça continue. Et pour le bonheur de chacun, et on grandit avec la série, aussi bien humainement que professionnellement, donc c'est extraordinaire.
Alors, le personnage de Gwen a vécu évidemment une séparation avec Tristan ces derniers temps, mais on a l'impression quand même que c'est un peu l'ami-mour encore un peu entre vous. On sent qu'il y a une espèce de tendresse, que même si la séparation a eu lieu, il y a encore cette forme de tendresse entre vous qui reste.
Tout à fait, je pense que c'est comme de grandes histoires d'amour qui ont aussi été de grandes amitiés. Pour Tristan et Gwen, voilà, ça reste aussi, ils ont eu leur histoire d'amour et ils continuent leur histoire d'amitié qui est sublime. Et je pense que ce serait difficile de couper ça. Je pense qu'ils savent pas faire l'un sans l'autre. Ils ont tellement vécu de choses ensemble que voilà, c'est de grands meilleurs amis.
C'est quoi tes plus beaux souvenirs de tournage ?
Mes plus beaux souvenirs de tournage, je pense que ça a été la rencontre avec Mathieu Alexandre, Tristan, parce que moi je suis arrivée un petit peu avant lui, donc je savais pas du tout que ça allait être...
T'as vu, je commence à y faire un peu concurrence au niveau des cheveux.
Oui, c'est vrai. Avec les petites, mais toujours les petites bouclettes tous les deux, c'est mignon, on craque.
C'est ça, beaucoup de tournages au Spoon aussi, beaucoup de tournages en extérieur. Alors le Spoon a été recréé hein, en intérieur parce que ça devenait quasiment ingérable. Vous avez, le succès est incroyable, les gens viennent carrément en vacances à 7 pour venir voir le Spoon, qui est devenu une institution sur le canal de 7. Résultat, vous aviez 500 personnes qui regardaient le tournage.
Tout à fait, donc en fait, on avait des gens qui étaient dans le cadre, qui venaient prendre des photos avec nous alors qu'on était en train de tourner. Et c'est vrai que c'est difficile de dire aux gens, bah là, je travaille pour vous faire plaisir chaque soir. Mais c'est vrai que c'était fou, puis même c'est impressionnant, parce que du coup, en tant que comédien, on a l'habitude de faire ça un peu en secret. Mais là, avec ce magnifique décor en extérieur au centre-ville de Sète. Puis il y avait même aussi les bateaux qui passaient et qui nous faisaient coucou et qui criaient « on vous aime ». Et le petit train qui klaxonnait à chaque fois, qui disait « à votre droite, vous pouvez trouver le Spoon avec les comédiens ». Donc c'était pas très pratique pour tourner, c'était pas facile. Mais ça réchauffait le cœur quand même, parce qu'on savait pourquoi on le faisait.
Tu imaginais la célébrité soudaine que ça amenait, une série quotidienne, une visibilité comme ça quotidienne, que ça allait devenir compliqué de te balader dans la rue?
Pas du tout, on se dit toujours pour les autres en fait. Du coup oui, moi je prends souvent le métro à Paris et je comprenais pas pourquoi les gens me regardaient. Et puis souvent on me dit oui, je regarde Demain nous appartient et j'étais là, ah d'accord, ça explique cela, pourquoi on me regarde, j'ai rien sur le nez ou est-ce que j'ai mangé quelque chose et que c'est resté sur le menton. Mais non, pas du tout, c'est que les gens voilà, étaient heureux de me retrouver dans la vraie vie.
Alors on sait qu'il y a un décalage à peu près hein, de un mois et demi, deux mois hein, sur le tournage. Alors que va-t-il arriver à Gwen dans les semaines qui viennent? Est-ce que tu as tourné beaucoup?
J'ai tourné pas mal de choses, notamment l'intrigue vegan. Et puis d'autres petites choses qui arrivent, mais c'est top secret.
Bon, avec Tristan, il y a un petit tour d'or viens-y prévu ou...
Je pense qu'on est bien sur meilleur ami, best friend.
Voilà, ça c'est fait. Des projets pour la suite. Sandrine, est-ce que tu as d'autres projets? Parce que ça doit amener et ouvrir des portes incroyables. Donc d'autres séries, téléfilms, cinéma, théâtre.
Alors j'ai la chance pour Slash France Slash TV en fait de participer à une saison de la série Scam. Donc une série pour ados, jeunes adultes, mais aussi un peu plus. Et puis d'autres petits projets secrets qui arrivent. Et j'ai hâte d'en parler, mais en tout cas, oui, ça apporte de très très beaux projets.
Voilà. Tu sais que tu es bienvenue quand tu veux dans l'émission pour en parler.
Avec grand plaisir, merci beaucoup, c'est très sympa.
Et puis on a hâte de te retrouver également sur le tournage à 7. Dès qu'on aura l'occasion, on viendra te faire un petit coucou.
Vous êtes toujours les bienvenus.
Merci. Merci à toi, Sandrine, et puis à très vite. Et demain nous appartient, je vous rappelle, hein, c'est la série à pas rater sur TF1 à 19h20 du lundi au vendredi.
Tout à fait, merci à tous, je vous embrasse.
Dans les épisodes précédents,
à cause de toi. Je vais pas perdre un gramme.
On en a parlé tout le week-end de ce ballon gastrique. Au début, il faudra manger que liquide.
Genre de la soupe à tous les repas.
Toujours aussi motivé?
Oui, oui, je suis très motivée.
C'est quoi le truc avec Hugo? Tu lui dois quelque chose?
Non, pas du tout, on est potes.
Pourquoi tu mens pour lui?
J'ai vraiment besoin de toi, j'ai pas envie de retourner en prison.
Et le reste, tu t'en fous? Car tu reçois mal que moi je prenne cher?
Tu regrettes d'avoir menti aux flics, c'est ça?
Quand tu dis des trucs comme ça, ouais.
C'est quoi, dénonce-moi?
C'est peut-être ce que j'ai de mieux à faire en fait.
Indiscrétion, scoop,
scoop,
news, tout de suite l'infomédia.
Et dans l'infomédia, eh bien, cette semaine, le ministre de la Culture, Franck Riester, s'est engagé au festival Sérimania de Lille à soutenir la création de séries avec un nouveau plan de soutien et à saluer la réforme du droit d'auteur, première étape d'une responsabilisation des plateformes. Les séries font partie de nos vies, elles ont un impact considérable sur nos imaginaires. Alors les séries françaises doivent représenter la France telle qu'elle est dans sa diversité, a estimé le ministre. Annonçant le lancement donc d'un plan série élaboré par le CNC. Selon l'organisation du festival Sérimania choisi par le ministère pour devenir le plus grand festival français du genre, il a jugé que la France était une terre de séries et je veux bien qu'elle le soit davantage encore, s'est-il réjoui. Le géant américain Netflix et le groupe TF1 ont annoncé un accord inédit de financement sur la superproduction française actuellement au tournage de Bazar de la Charité, une série qui sera diffusée à la fin de l'année. Il s'agit pour Netflix de préfinancer cette saga historique en 8 fois 52 minutes qui a pour toile de fond un incendie survenu à la fin du 19e siècle dans ce bâtiment abritant une manifestation caricative très courue, faisant plus de 130 morts, essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel. Cette superproduction avec notamment Josiane Balasco, Audrey Fleurot et Stéphane Guillon est prévue au deuxième semestre sur la Une et Netflix aura donc les droits exclusifs de la SVOD Monde pour 4 ans. C'est la première fois que Netflix intervient en préfinancement d'une série originale initiée par TF1. Ce partenariat pose le cadre d'un meilleur partage des risques, des droits et de la valeur entre tous les partenaires de cofinancement, poursuit-il donc dans un communiqué. Pour le patron des contenus de Netflix, Ted Sarandos, de passage au festival Sérimania de Lille. Pour donner une conférence, cet accord atypique en amont démontre que nous allons pouvoir trouver des systèmes ingénieux de financement pour faire briller l'excellence française tout en ravissant nos membres dans 181 pays différents. La Une avait déjà noué un partenariat avec le géant américain pour sa première série française, Marseille, diffusant les deux premiers épisodes une semaine après leur diffusion sur la plateforme.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Et nous allons donc consacrer dans un instant notre dernière partie d'émission au film Mon Inconnu de Hugo Gélin qui sort en salle mercredi. Nous recevrons à cette occasion donc le réalisateur Hugo Gélin qui sera accompagné de Joséphine Japy et Benjamin Laverne. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer et un film à ne pas manquer dans les salles mercredi. On en parle dans 3 minutes, alors ne bougez pas, on revient. A tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre spécial ciné, coup de cœur cinéma cette semaine avec le film Mon Inconnu. Très beau film d'Hugo Gélin que j'ai eu la chance de voir en avant-première au Festival de l'Alpe d'Huez. Et puis, ben, on a deux comédiens pour vous qui sont avec nous. C'est Joséphine Japy qui joue le rôle d'Olivia. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis, un petit gars de notre région, Benjamin Laverne de la Comédie Française.
Voilà, petit gars de la Comédie Française. Benjamin, voilà, ravi.
De notre région qui est de Poitiers en plus, Benjamin.
Oui, de Poitiers.
Alors Benjamin, t'as vu, de la Comédie Française, ça fait bien.
Hein. Oui, ces petites particules, les gens pensent que je me la raconte ou que c'est un truc, c'est une coquetterie. Alors qu'en fait, c'est dans les contrats, on n'a pas le choix, faut le mettre.
Et oui, comme Laurent Lafitte. Exactement. Voilà, il y en a plein comme ça, effectivement. Alors, Mon Inconnu, c'est un film, moi j'ai trouvé, magnifique, où tu joues un très beau couple avec François Civil et avec Amaury de Crayoncourt aussi, hein, que les fans de Nos Chers Voisins connaissent bien aussi dans le rôle du médecin. Et effectivement, comment t'es arrivé déjà dans cette aventure et comment t'as été choisi par Hugo?
Alors d'abord, en fait, j'ai rencontré Hugo une première fois. On a juste déjeuné ensemble, je me souviens, pour pouvoir discuter, se parler, se dire des choses. Et après, on a fait plusieurs séances de travail, en fait, plusieurs essais, tous les deux, puis avec François, pour vraiment voir ce qui se produisait entre nous, parce qu'en fait, il y a quand même l'histoire d'un duo et d'un couple fort dans le film. Et c'est vrai que tout de suite, lors des premières séances de travail, moi, j'ai eu une évidence. Enfin, j'avais envie de travailler avec Hugo, j'avais envie de travailler sur ce film, j'avais envie de travailler avec François. C'était très fluide et ouais, un truc d'évidence directement, quoi.
Alors, l'histoire d'un couple, hein, évidemment, que l'on voit de sa formation jusqu'au moment d'une éventuelle séparation, et puis là tout bascule évidemment, puisque voilà, le rôle de François Civil, Raphaël, se retrouve projeté dans une vie parallèle qu'il n'a évidemment pas vécue, et seul lui a conscience. Et donc il va essayer, le premier qui va être au courant, c'est Félix, son meilleur ami, joué par Benjamin Laverne de la Comédie Française.
Voilà, pas me lâcher. Oui, c'est, je trouve que c'est l'ambition de ce film et sa richesse. C'est le côté fantastique, merveilleux, qu'on a moins souvent en France, plus aux États-Unis ou en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons. Et donc ça, c'était vraiment ce qui m'excitait aussi à la lecture du scénario. Et en effet, le meilleur ami de Raphaël, il s'appelle Félix, et celui qui va se retrouver aux premières loges parce qu'il voit son pote débarquer un matin, qui tient des propos totalement incohérents.
Sans
chocolatine, voilà, vous comprendrez quand vous viendrez voir le film, une histoire de pain au chocolat. Et donc voilà, ce personnage qui est le sidekick, le meilleur ami, qui prend en charge aussi notamment la comédie, ce qui est vraiment une chance, je trouve, moi, toujours pour un comédien, de faire rire, c'est toujours un bonheur. Et ben, on se retrouve aux premières loges et va devoir l'aider. Et donc il y a oui, tout ce challenge à l'écriture. Comment, quand vous voyez votre meilleur pote qui vous dit qu'il a changé de vie, qu'il a jamais eu cette vie-là, comment vous le prenez? Et on s'est pas mal pris la tête parce que le personnage de Félix, le public s'identifie parce qu'ils se disent, mais alors comment ils vont s'en sortir, même en termes de cinéma, comment on va y croire, comment on va rentrer dans le film. Et donc on voulait qu'il y ait toutes ces étapes, de dire, ah ok, donc en fait t'as pris de la drogue, c'est une blague, c'est une caméra cachée, il peut pas y croire, c'est impossible. Et donc il est long à l'allumage et je pense que c'est tant mieux, puisque c'est ce qui permet au public de pas lâcher et de dire, ok, j'y crois, je les suis, et en même temps, le personnage de Félix a ce grain de folie, cette espèce de dinguerie qui fait qu'à un moment donné, il va le croire et qu'il va vouloir l'aider. Parce qu'il est passionné par tout ce qui est voilà, métaphysique, la vie parallèle, l'Uchronie, les voyages dans le temps. Et donc, c'est ce qui participe à la comédie aussi, c'est qu'il est un peu zinzin et qu'il va... Et puis, heureusement, sinon le film s'arrêterait là. Je l'enverrai à l'asile et puis ça serait terminé. Non, je me dis, ok, je te crois, c'est parti. Et donc, le film part sur ce postulat-là de « je vais t'aider ».
Alors, moi, une scène qui m'a fait rire, c'est Camille Lelouch qui s'aperçoit, évidemment, enfin qui croit hein, qu'ils sont en couple, Olivia et Raphaël, et qui dit « mais en plus, c'est que vous êtes beaux, et c'est vrai que vous êtes beaux tous les deux à l'écran, la magie opère, et ça, c'est aussi la magie du metteur en scène, de Hugo hein. ».
Oui, complètement. Et c'est une magie qui est tellement importante dans le genre de la comédie romantique. On a envie de voir un couple, d'y croire. On a envie d'avoir envie d'être amoureux après ce genre de film. Et je pense que c'est le cas. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à travailler en amont. On est parti à Prague tous ensemble avec Hugo et François filmer des scènes de vie. On est parti avec une caméra, quelques costumes. On a enfilé des pulls et des pantalons et on est parti marcher dans Prague et filmer des choses et créer en fait une histoire de couple, une vie de couple sur 10 ans en fait, parce qu'on les suit pendant 10 ans, donc on les suit de 17 à 27 ans, donc comment on évolue comment un couple évolue comme ça individuellement mais aussi sous le regard l'un de l'autre. Et on a vraiment créé ce truc là et on a passé beaucoup de temps à réfléchir à leur histoire, quoi.
En effet, c'est qu'on puisse croire à leur couple, tomber amoureux avec eux en très très peu de temps, puisque leur vie est résumée, et puis après ils se lâchent, ils se connaissent plus, et donc il faut qu'on ait envie qu'ils se retrouvent, et donc il faut qu'on ait été touché par eux pour qu'on ait cette envie là parce qu'après ils ne se connaissent plus et donc on n'a plus de prise, et donc c'est une deuxième rencontre. C'est aussi un peu le challenge, parce que c'est monté à l'envers. Comédie romantique, on les lâche pas, on les rencontre petit à petit, on tombe amoureux avec eux, et puis ça va pendant 2 heures de film, alors que là en 10 minutes on doit y croire, tomber amoureux avec eux, les aimer et avoir envie qu'ils se redécouvrent et voilà. Donc c'est aussi
le challenge réussi de ce film, c'est le montage du, à l'inverse d'un scénario de comédie romantique classique, quoi.
Alors le piano, dis-moi Joséphine,
oui.
Qui joue du piano? Tu as joué du piano toi, vraiment dans le film?
Alors moi je jouais pas vraiment au piano avant ça, j'avais pris quelques cours il y a très longtemps et là du coup il y avait un vrai challenge. Quand on en a parlé avec Hugo, on en a discuté, je lui ai dit que j'avais envie d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette expérience de piano. Du coup on a fait un énorme travail avec une coach, j'avais 2 heures de cours par jour plus 2 heures ou 3 heures de travail perso pendant les quelques mois qui ont précédé le film. Et du coup en fait il y a eu une vraie implication au piano, où j'ai pu jouer certains morceaux, d'autres morceaux trop techniques bien sûr, si j'avais voulu les faire j'aurais dû travailler non-stop pendant 20 ans, donc on était sur un travail de mime en fait aussi, mais il y a des moments où je joue au piano dans le film et c'était une découverte absolument, absolument géniale.
Moi c'est en tout cas un des films coup de cœur hein, 2019, moi je vous garantis il faut vraiment pas le rater, très beau film d'Hugo Gélin. Vos projets, on termine avec ça Benjamin, pour cette année 2019?
Eh bien, toujours à la Comédie Française.
Apparemment, je t'avais pas dit ce coup-là, t'as vu, je t'avais lâché.
Mais moi, je joue toujours Les Fourberies de Scapin, qu'on a créé l'année dernière. Apparemment, c'est ce que dit Joséphine, mais elle est pas objective.
Il est absolument génial dans Les Fourberies de Scapin. C'est un génie. Un génie. Je le dis. Voilà.
500 € comme on a dit tout à l'heure. Donc, Les Fourberies de Scapin, en alternance à la salle Richelieu jusqu'au 19 mars. Et puis, moi, j'ai un autre film qui sort le 3 avril, qui s'appelle Curiosa, qui est un drame d'époque de Lou Genet avec Neil Schneider, Noémie Merlan, Camélia Jordana, Amira Khazar. Et donc voilà, ça sort le 3 avril. Et puis à la Comédie Française, en fait, on continue jusqu'à fin juillet. Je suis dans Electre et Oreste, mis en scène et adapté par Ivo Van Hove, qui est un metteur en scène flamand. Puis après, on fait un spectacle sur Gainsbourg. On fait une espèce de portrait concert de Serge Gainsbourg à la Comédie Française aussi. Et là, je vais penser à Joséphine, mais j'apprends la basse. J'apprends la guitare basse. Moi, je fais de la batterie déjà. Mais là, j'apprends la basse parce qu'il n'y a pas de bassiste pour ce spectacle, qui est un spectacle musical, avec Sébastien Poudrou et Stéphane Varupen, mes amis de la Comédie Française, qui mettent en scène. Et donc, ça nous amène à fin juillet, où on reprend le Misanthrope, mis en scène par Clément Hervieux-Léger, aussi pour quelques dates. Voilà, donc théâtre et quelques sorties cinéma, et peut-être aussi le tournage de, je l'espère que le planning va matcher, du film de Douglas Attal, qui s'appelle « Comment je suis devenu super-héros ?» Film de science-fiction, pour le coup, là, vraiment de super-héros, qui se passera à Paris, avec des super pouvoirs. Voilà.
Bien, et Joséphine?
Alors bah déjà le 3 avril, hein, un film Mon Inconnu de Hugo Gélin qui sort avec François Civil et Benjamin Laverne de la Comédie Française. Voilà, donc... Et Camille Lelouch, mais oui, pardon. Et Amaury de Crayon. Non, mais... Edith Scob, merci. Et après, en juin, la sortie d'un autre film, qui est un premier film qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, de Mathias Pardo, avec Nekfeu. Également, qui joue dans le film, Rod Parado et Kharija Touré, qui est donc plus un drame romantique pour le coup, qui a été très excitant à tourner, et voilà, donc hâte de vous le présenter très rapidement.
De se retrouver en juin. Eh bien écoute, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce Mon Inconnu, ça sort mercredi dans les salles. À très vite, et merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Qu'est-ce que t'as, Raph?
Hein? Depuis hier, t'es hyper bizarre.
Ça sert à rien, tu vas me prendre pour un fou.
Dis-moi, depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé.
T'es con. Félix, je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie où ma femme n'est plus ma femme.
Olivia.
Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Et elle ne me reconnaît plus.
Votre prénom, c'est...
Raphaël, c'est fou, c'est fou, c'est fou.
C'est
fou.
Fou.
Résume-moi ma vie.
On fait du ping-pong, plutôt bon.
Attends, Félix, ça va pas le faire du tout. Moi, ça fait 1000 ans que j'ai pas joué.
Super, t'es pas obligé de me tourner le dos, hein. Je connais ta bite.
Hein, comme ça, tu connais ma bite.
C'est pas ma meilleure amie, mais oui, je connais ta bite.
Salut, lapin, ça va?
Et tu préfères baiser tes plans cul dans ta garçonnière?
Ah, tu viens pas?
Si.
Allez, on va continuer à parler de Mon Inconnu. C'est notre film coup de cœur, vous savez, qui sort mercredi dans les salles. Alors Benjamin et Joséphine étaient avec nous il y a un instant, mais on ne pouvait pas se quitter sur ce film sans évidemment avoir notre réalisateur, Hugo, qui est avec nous. Hugo Gélin, bonjour.
Salut à tous, bonjour.
Ça nous fait super plaisir de t'accueillir. Troisième film, on est à tes côtés pour te soutenir dans la sortie. Après, comme des frères et demain tout commence. Et bien là, c'est ton troisième film, Mon Inconnu. Et quel beau film, comme je disais à l'instant, on a eu la chance de le voir en avant-première et tu nous as servi encore une vraie fable poétique.
Ah, écoute, j'ai essayé de faire une comédie romantique, en fait, dans le sens noble du terme, comme Coup de foudre à Notting Hill, comme Love Actually, comme Un jour sans fin, qui sont des films exceptionnels pour moi, qui laissent la part belle à la comédie et qui laissent la part belle également au romantisme, c'est-à-dire les deux. Je pense qu'on a beaucoup besoin d'amour en ce moment, ça nous fait du bien. Et en même temps, j'avais envie de faire une comédie romantique qui assume les deux termes. J'ai trop vu de comédie romantique en France qui en oubliait un peu un des deux, c'est-à-dire qui était soit que de la comédie, soit que de la romance. Et au final, l'équilibre est assez compliqué à trouver, en fait. Donc je me suis attelé à vraiment travailler le scénario avec Igor Gottesman, qui a fait Five, qui est un de mes amis, à faire un film vraiment dans lequel on rit vraiment et dans lequel on a, je l'espère, envie de prendre les gens qu'on aime dans nos bras en sortant aussi, quoi.
Avec un vrai brin de fantastique aussi.
Et oui, il y a un petit peu de fantastique au début. En fait, c'est une histoire qui part d'un point de départ un tout petit peu fantastique. Après, le film ne l'est pas du tout. C'est complètement, tout est très 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 réaliste. Mais en effet, c'est l'histoire d'un homme qui du jour au lendemain se retrouve plongé dans un monde où il a jamais rencontré sa femme. Et en gros, on lui montre la vie qu'il aurait eue s'il l'avait pas rencontrée. Et contre toute attente, il se rend compte que tout a changé et qu'il a une vie de merde sans elle et que en fait, il aurait peut-être fallu qu'il la regarde autrement et qu'il aurait peut-être fallu qu'il arrête de se regarder lui-même et qu'il aurait peut-être fallu se rendre compte de la chance qu'il avait. Et en fait, c'est tu sais, il y a beaucoup de films qu'on résume en disant c'est a boy meet girl movie, c'est-à-dire c'est un film entre un homme qui rencontre une femme et c'est un peu un genre. Là, ce qui m'amusait, c'est que c'est a boy meet my girl, c'est-à-dire en fait, c'est un homme qui rencontre sa femme. Et ça change tout en fait, rien de rajouter ce mot, ça change tout au principe du film, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui, il va rencontrer sa propre femme, donc les cartes sont complètement rebattues, il repart de zéro et en même temps il sait tout d'elle. Donc en fait il y a une ironie dramatique et de comédie qui est en permanence là dans le film et qui permet de s'amuser de toutes les situations et puis aussi d'être touché par des choses qui nous révèlent ce qu'on oublie des gens qu'on aime.
Alors évidemment, François Civil, hein, qui est un ami d'Igor aussi, hein, qui a joué dans Five, et Joséphine Japy. Qu'est-ce qui te les a fait choisir tous les deux? Parce que là où je rejoins Camille Lelouch, qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux à l'écran?
Elle t'a dit ça, Camille, elle est mignonne.
Non, mais elle le dit dans le film.
Ah oui, c'est vrai, elle le dit. Ah oui, c'est vrai, elle dit, oh putain, vous allez trop.
J'ai vu le film, hein, j'ai vu ton film.
Non, elle dit, oh putain, vous allez trop bien ensemble, fais chier. Elle pleure et tout, parce qu'elle, bon, voilà. Mais ça, je laisse au spectateur la surprise de la comédie avec Camille Lelouch. Mais en gros, moi, je sors d'un film qui s'appelle Demain tout commence avec Omar Sy, qui est une énorme star, que j'ai adoré faire. Et là, j'avais envie que ce soit l'histoire, la star du film. Parce que je trouve que c'est une histoire belle, qui peut toucher plein de gens, qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit en couple ou pas en couple, qu'on ait été des jeunes amoureux ou qu'on rêve de devenir amoureux. Donc en fait, qu'on soit hétérosexuel, homosexuel, peu importe. Et donc du coup, j'avais envie que ce soit l'histoire qui soit vraiment la star du film. Et en plus, je devais avoir des acteurs qui passaient de 18 à 28 ans, donc forcément des jeunes. Donc mon choix s'est tout de suite porté sur François Civil parce que je le connais bien. J'ai produit une série qui s'appelle Casting de Pierre Ninet dans laquelle il était. Et j'ai fait un court-métrage avec lui il y a quelques années qui n'a rien à voir, mais j'avais déjà un peu travaillé avec lui. Et puis il faut savoir quand même que c'était mon autre choix sur Comme des frères à la place de Pierre Ninet. C'est-à-dire que j'ai hésité entre les deux très longtemps. C'est quand même fou. Et ils ne se connaissaient pas à l'époque. Et j'avais choisi Pierre parce qu'il était beaucoup plus proche de moi physiquement à l'époque. Il n'avait pas fait de muscu, etc. Il n'était pas aussi costaud. Il était tout fluet, etc. Il était plus proche de moi physiquement. Et en fait, ce personnage, c'était un peu moi. Donc en fait, j'avais choisi Pierre. Il était formidable dans le film. J'étais trop heureux de tourner avec lui. Mais François était l'autre second rôle. Donc en fait, il y a quand même une attirance énorme pour François depuis longtemps.
Et Joséphine.
Et Joséphine, j'ai fait un casting là pour le coup. J'ai fait beaucoup d'essais avec pas mal de filles. Et j'ai eu un coup de cœur pour Joséphine parce qu'il me fallait deux choses. La première, c'est qu'elle ait l'élégance, stature d'une grande pianiste mondiale, qui est quand même pas rien. Et puis, en plus de ça, il fallait qu'elle soit extrêmement accessible. Il faut pas qu'elle soit inaccessible, ce personnage. Parce que dans les comédies romantiques qui sont ratées, la femme, on n'a pas envie de l'aimer. Et les femmes qui regardent le film n'ont pas du tout envie que ce soit sa copine. Et Joséphine n'a pas du tout ça. Elle a une simplicité, une humanité, elle est normale. Et en même temps, elle peut être une espèce d'Audrey Hepburn moderne, avec une classe et une grâce exceptionnelles.
Quand tu écris tes films, c'est la dernière question que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu as envie tout le temps de surprendre le téléspectateur là où on pourrait attendre une fin et où ce n'est pas celle auquel on peut s'attendre? Tu nous l'as fait sur Demain tout commence, évidemment, sur Comme des frères. Là, on peut s'attendre à la même chose.
Ah oui, parce que moi, j'aime au cinéma deux choses. J'aime rêver, J'ai besoin d'aller au cinéma pour qu'on me raconte un truc qui me fait rêver. Ça peut être tout, mais il me faut un petit truc qui me fait rêver. C'est pour ça que le cinéma de Spielberg m'a toujours touché, ou de Zemeckis, ou de Woody Allen. Et donc j'ai besoin de ce rêve, et j'ai besoin aussi de surprendre à l'intérieur du film. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de rebondissements, qu'il se passe des trucs dans le film, de pas m'ennuyer, parce qu'en fait je suis le premier à m'ennuyer dans mes propres scénarios sinon. Et puis, parce que c'est un plaisir de spectateur, putain, moi j'adore dans des films qu'on me montre un truc où je m'y attendais pas, et vu que là on joue avec quand même une intrigue où il faut qu'il sorte de cette vie-là, il faut qu'il trouve une solution, forcément j'aime bien l'idée qu'on me mette sur des pistes, et puis qu'en fait c'était une piste qu'on avait depuis le début, qu'il fallait regarder mieux pour s'en rendre compte que c'était ça la solution. Et puis au final le film se termine pas forcément comme on l'imagine, parce que est-ce qu'il va rentrer dans sa vie d'avant, est-ce qu'il va rester dans cette vie là, est-ce qu'il va réussir à la reséduire, qu'est-ce qui va se passer entre eux. Au final il y a pas mal de questions, et c'est amusant de laisser le spectateur avec des petits points d'interrogation aussi pour qu'il se fasse un peu son histoire, quoi.
En tout cas, elles ne resteront pas sans réponse, ces questions que vous vous poserez tout au long du film. Vous verrez bien sûr ça à la fin. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Hugo. On va se quitter avec un nouveau petit extrait, puisque Mon Inconnu, ça sort mercredi dans les salles. Merci infiniment à toi. Et puis, bah, on se donne rendez-vous pour le quatrième.
Ah bah c'est sûr, hein. Merci, merci à vous, merci de votre fidélité.
Bah
oui. Ouais.
Par contre, chose qui ferait plaisir, tu me poses un petit massage comme autrefois. Bah non, t'es con ou quoi, les pieds?
Eh oui, c'était les pieds qu'on avait
fait. Ah oui.
Il faut que tu m'aides à retourner dans ma vie d'avant, Félix. Tu peux faire ça?
Ok.
Ça y est, je la vois. Qu'est-ce que je fais?
Bon, écoute, regarde son cœur.
Hein?
Morgane, quand je l'ai regardé pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche.
Mais arrête avec tes flèches, là, ça marche pas, je te dis. Ça marche un peu. Elle me regarde.
Et voilà! La flèche!
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous saviez que c'était mes fleurs préférées?
Coup de bol, quoi.
Marc, tu viens?
Marc, vous êtes l'agent,
hein? Agent et presque mon mari.
Il y a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme, quoi. Olivia, je peux t'avouer un truc?
Ouais.
Ça fait des années qu'on se connaît. On a été ensemble, en couple, toi et moi. On s'est aimés très fort. On a été mariés, c'est pour ça que je sais tout de toi.
Si t'avais été mon mari pendant tout ce temps. C'est dingue.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, eh bien, nous aurons le plaisir de consacrer une large partie de notre émission à la suite du film Tanguy, le retour, avec le réalisateur Étienne Châtillies, mais aussi, évidemment, Éric Berger, qui sera notre invité, le héros de Tanguy, que l'on va retrouver 17 ans après, donc rendez-vous à ne pas manquer. La semaine prochaine, eh bien, nous aurons également le plaisir de recevoir l'héroïne de la série Ainsi Grand Soleil, Mélanie Maudran sera notre invitée, viendra nous parler, évidemment, de la série, de l'évolution de son personnage et de ses projets. Et puis de nombreuses surprises, hein, vous attendent évidemment dans cette émission du 8 avril. Alors surtout, eh bien, restez connectés sur notre page Facebook Chute en écoute la télé pour en savoir un peu plus.
Chute en écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute en écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine sur Radio Dune pour la quotidienne de Chute. On écoute la télé à 5h35, 10h30 et 12h20. Et puis bien sûr, rendez-vous à 16h dès lundi prochain pour la grande hebdo. Alors d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle fin d'après-midi. À demain les amis.
Chute, on écoute la télé avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord sur diffusionsolmur.fr.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Gironde sur lucien-georgelin.com.